Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
François Mitterrand, intime.
Dans les élections de dimanche dernier, vous avez noté les résultats de la ville de Clermont-Ferrand. Et c'est une ville qui vous connaît bien et qui me connaît bien. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole de Clermont-Ferrand. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole de Clermont-Ferrand. Vous ne l'avez pas.
Bon, tout n'est pas exact dans la citation que vous venez d'entendre, mais la phrase où Valéry Giscard d'Estaing, pendant le duel télévisé de la présidentielle de 1974, dit « Clermont-Ferrand, que je connais bien et qui vous connaît bien », elle a été prononcée. Anne Pinjot appartenait en effet à une bonne famille de la ville, et d'un coup de patte, VGE signifiait à son adversaire que leur liaison, alors vieille de 10 ans, n'avait pas échappé à tout le monde. Imaginait-il cependant qu'il arrivait à Mitterrand d'écrire à Anne depuis son banc de l'Assemblée pendant que lui-même, Giscard, parlait à la tribune, où, qu'armé de ciseaux et de scotch, il passait des heures à découper toutes sortes de caricatures de cartes de photographie pour lui raconter sa vie d'homme politique, pas si intéressante que ça, remarquait-il. À l'initiative d'Anne Pinjot, qui veut sans doute établir sa part de vérité, et avec l'accord des deux fils de François et de Daniel, Gallimard publie ses lettres et ce journal que Mitterrand lui destinait. On s'interrogera sur la nécessité qu'il y avait ou non de les publier, sur l'importance politique qu'ils revêtent ou pas. Dès la première lecture, on peut cependant dire que la destinataire eut bien de la chance de recevoir pareil hommage. Elle le reconnaît d'ailleurs tout en tempêtant contre la vie parallèle, cachée, à laquelle elle se retrouva condamnée. On sait bien que cette dernière difficulté n'a pas suffi à arrêter Mitterrand dans son entreprise de conquête et de reconquête d'une jeune femme qui ressemblait peut-être à la France, puisqu'avec elle, rien n'était jamais acquis. Le péché, note-t-il sur un bout de papier conservé avec les autres par Anne, commence au confort.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Eh bien, Gallimard, Michel Vinoc, bonjour.
Bonjour.
Nous a donné la primeur de ces deux livres que vous avez lus in extenso. Vous aviez déjà publié une très belle biographie, moirée, nuancée, complexe de Mitterrand, qui vient d'ailleurs de paraître sous format de poche chez le même excellent éditeur, Gallimard. Excellent éditeur, oui, d'accord, mais certains vont dire, on est au temps de l'amour dans le pré, comme dit une productrice de M6. Faut-il ouvrir à deux battants les volets de la vie privée des hommes politiques?
À vrai dire, je ne me pose même pas la question à ce sujet. Je veux dire que François Mitterrand est mort depuis plus de 20 ans et que cette intimité, elle est devenue historique. Je sais bien que sa bien-aimée, elle, vit toujours, mais il n'empêche, ce sont des textes qui ne m'ont pas gêné, ce n'est pas le sentiment que j'ai éprouvé. Ce que j'ai éprouvé, c'est d'abord la surprise et un certain émerveillement. Alors la surprise, ce n'est pas que François Mitterrand soit amoureux, mais c'est la nature de cet amour passion, qu'il exprime d'une manière étonnamment poétique. Et vous l'avez dit, d'abord dans un journal qui est un objet qu'il faut voir.
Alors expliquez, c'est des blocs qu'il remplit avec des collages.
Bah oui, alors tous les jours, il consacre une page dans laquelle il raconte à Anne sa journée, et ornée de collages, donc avec des ciseaux et du scotch, n'est-ce pas, tac, tac, tac. Il colle quoi donc? Eh bien, ce sont des photos, des cartes postales, des reproductions de peintures, et même des menus de restaurants, des enseignes d'hôtels, enfin, etc. Et puis, alors, quant aux lettres, les lettres qui sont parallèles et qui durent plus longtemps, puisque le journal, lui, a été écrit entre 1964, oui, et 1970, alors que les lettres commencent en 62 et vont s'achever jusqu'à sa mort, n'est-ce pas? Alors, ces lettres sont des lettres, là encore, je dirais, une sorte de d'hymne à l'amour continu, avec des hauts et des bas dans les sentiments. Et moi, j'ai pensé, en lisant cela, au livre de Barthes, n'est-ce pas, les fragments du discours amoureux, qui est tantôt émerveillé, qui est tantôt plein de lumière, et puis qui est aussi plein d'angoisse, d'incertitude, de peur.
Ils se sont connus à Osgore, dans les Landes, où les Pinjot de Clermont-Ferrand et les Mitterrand de la Nièvre étaient voisins dans leur maison de vacances. La différence d'âge était grande. Elle dit, à 19 ans, j'étais amusé d'être courtisé par ce vieux monsieur de 46 ans. Il n'était pas d'ailleurs le seul de cet âge à la courtiser et je me croyais invulnérable. Mais des lettres multi-quotidiennes, ou en tout cas quotidiennes, et puis des cadeaux. « Je vis en religion d'âne, dit-il. Je n'ai pas votre foi, j'en suis tout occupé. » Un des premiers cadeaux signalés, c'est un disque de la société SM, des studios musicaux catholiques. Un disque intitulé « Trouvert, Troubadour et Grégorien ». Parce qu'elle est catholique, Anne, profondément.
Eh oui, elle va à la messe régulièrement. De temps en temps, il l'accompagne, du reste. Lui est plutôt agnostique, mais il a toujours été tout de même occupé de spiritualité.
Que font trois Français ou 25 dès qu'ils sont réunis ? Des discours. Le préfet et le président ont donc prononcé de méandreux et filandreux discours que notre député a écoutés distraitement. Il a applaudi le président en tapant le tapis vert d'une main et deux secondes, et pas du tout le préfet. Après quoi, la commission des finances l'a absorbé. Mais je n'en jurerai pas. On l'a vu griffonner des papiers sans rapport apparent avec les questions traitées jusqu'à l'heure du déjeuner. Nevers présente la caractéristique de n'offrir que peu de débouchés au palais délicat. C'est au terminus, restaurant décoré d'un flot de fleurs artificielles grimpantes, rampantes, retombantes et de poissons en celluloïdes, que s'est attablé un petit groupe de conseillers généraux, parmi lesquels celui dont je vous narre les menus faits et gestes en m'excusant du soin que j'y mets. Ce que se sont dit ces honorables messieurs était certainement très intéressant. Peu importe au demeurant, la face du monde n'en sera pas changée. Le café ingurgité, le député est parti seul, à pied. Il aime la marche et, par un après-midi grognon et gris, il a remonté la ville. Au passage, il a peu admiré l'architecture alentour, typée sur ces affreuses cités du centre de la France, que le Moyen-Âge avait cependant adornées de monuments estimables. Des magasins prétentieux, le terrifiant crépi couleur ciment étalé à l'envi, je ne connais rien d'aussi répugnant sinon la pierre meulière d'Île-de-France, des enseignes et des vitrines, phares du mauvais goût, des maisons qui sentent le style notaire. Quelle peine d'avoir à vivre en retenant le souffle de peur de respirer la contagion de la petitesse, de l'avarice, de la jalousie, du cœur sec. Nevers a une belle façade du côté du pont de Loire. C'est tout. Archi tout. Au-dedans, les viscères l'emportent sur les organes nobles. La laideur de Boulogne-Billancourt offense moins, puisqu'elle se sait laide. Et l'après-midi s'écoule. Le conseil général continue sa session. Les heures s'égrènent lentement. Le vague à l'âme de mon ami, le député, commence à déteindre sur moi.
Le député, il y a toujours une distance dans le récit que fait de sa vie. Mitterrand, c'est lui, c'est une lettre de 1964, à peu près au moment où il prend la présidence du Conseil général de la Nièvre. Quel portrait de sa modeste capitale, Nevers. C'est quand même un document, parce qu'il faut qu'on insiste, Michel Vinox, sur le caractère documentaire pour nos auditeurs de ces deux livres. C'est un document sur la vie de province, sur la vie de l'élu de province qui prend le Bourbonnais, la Micheline le matin, et puis après sa pantoufle, sa déesse, pour arriver à la préfecture de Nevers.
Oui, c'est vrai, la vie quotidienne d'un député, maire, président de conseil général. On n'avait pas encore interdit le cumul à l'époque. Donc il est affairé. C'est pourquoi son amour pour Anne, cet amour-passion, est d'autant plus étonnant. C'est que il n'arrête pas de prendre le train, la voiture, de se rendre à Château-Chinon, dont il est maire, mais aussi dans toutes les communes avoisinantes, d'aller à Nevers présider une séance du Conseil Général, d'assister à des banquets. Enfin, il n'en finit pas. Et il revient à Paris, où là, il assiste aux séances de l'Assemblée, aux réunions de son groupe parlementaire. Il a des visites, des réunions, des rendez-vous. C'est un homme suroccupé.
Le mieux pour nous voir, ce serait le Ghana Limoges avec changement à Montluçon. Il y avait davantage de trains à Montluçon qu'aujourd'hui. 16h31, 21h27. Mais je préférerais le Clermont-Brive, 14h28, 18h09. Alors, au bout du quai de la gare de Brive ou de celle de Saint-Germain-des-Fossés, il y a une route qui mène vers des auberges improbables, comme il en existait à l'époque, avec des lits à édredons et des volets qui battent.
Ce journal et ses lettres, c'est aussi un guide Michelin, vous savez. Il n'arrête pas, et soit seul, soit avec des amis, mais souvent avec Anne, de fréquenter les hôtels, les restaurants, je dirais pas de toute la France, parce qu'il y a toute une France qui est ignorée par Mitterrand. C'est la France du Nord, la Bretagne, la France de l'Est. Sa France, à lui, c'est évidemment la France centrale, du Morvan, de la Charente, du Midi, du Sud-Ouest. Et alors là, c'est vrai que c'est un routard, on pourrait dire. Il n'arrête pas, il n'arrête pas.
Avec sa petite serviette,
oui.
Sa vieille valise, oui. Très peu de vêtements.
Et il loge du reste dans un hôtel très modeste.
Ça, c'est Château Chinon.
Ah oui.
Sa base.
Monsieur le maire, n'est-ce pas, a une chambre dans un hôtel qui n'est pas de première catégorie, dont les cloisons des murs ne sont pas très, très épaisses.
Tous les détails de tous ses voyages ne quittent jamais sa mémoire.
Pour le dîner de la Bouteille d'Or, pour les déjeuners du Saint-Louis, pour les soupers de la Coupole, pour les petits déjeuners de nulle part, pardonne-moi mon âne. Pour l'église de Saint-Ilide, pour les chemins de Nabino, pour la halte de Montredon, pour la rue de Saint-Sulpice, pardonne-moi mon âne. Pour la nuit de Chêne-Hutte, pour les nuits de Saint-Benoît, pour la nuit du Jet, pour la nuit d'Atlanta, pour les nuits de Rieutor, pardonne-moi mon âne. Pour la première nuit, pour les plus belles nuits, pour les plus tendres nuits, pour la dernière nuit, pardonne-moi mon âne. Pour notre âme, pour notre corps, pour notre douleur, notre joie, pour notre solitude, notre mort, pour mon chagrin du fond des mers, pardonne-moi mon âne.
1970, au mois de juillet, un des quelques poèmes qui parsèment ces lettres à Anne Pinjot, que vous avez lu, Michel Vinocq, que les auditeurs qui attendent des détails érotiques ne poussent pas plus loin l'écoute, on ne pourra pas déterminer le moment de la première nuit, de la plus belle nuit, encore que Chêne-Hutte, les Tuffauts et Saint-Benoît, ça doit avoir de l'importance. Je dirais, moi, c'est presque une affaire de mains qui s'accordent, d'union, qu'une affaire de corps, le visage est plus important que le langage et les mains que le corps.
Oui, on a bien cette impression en lisant ces lettres et ce journal. Il y a un commerce entre François et Anne que je dirais d'abord spirituel, intellectuel, artistique. Elle est très différente des femmes qui l'entourent habituellement. Il y a comme une profondeur dans cette jeune fille qui devient une jeune femme, qui lui est pour lui l'expression d'une fraîcheur, d'une gravité qu'il apprécie énormément. Donc on peut dire qu'il est attaché à cette femme, oui, d'abord par le sentiment, l'émotion, l'échange sur les livres, sur les arts, sur le théâtre, etc. Ce qui n'empêche pas évidemment un rapport amoureux à tous les sens du mot.
Étudiante, elle lui fait un cadeau d'étudiante de cette époque. Rappelons-nous notre jeunesse, Michel Vinocq. Même dans les années qui ont suivi, les années 70, on écoutait encore beaucoup Aragon Ferré, milieu des années 60.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, en frappant dans ses mains On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michel Vinocq qui a lu pour nous les lettres que publie Gallimard, les lettres de François Mitterrand à Anne.
C'est intéressant pour la politique, cette publication ?
Pas tellement. Non, ce qui frappe du reste, c'est qu'au grand moment politique de François Mitterrand, on ne trouve pas de traces dans ses textes. En 64, il écrit son livre, son pamphlet terrible, « Coup d'État permanent ». Il ne cite même pas le titre, il parle du livre comme ça, en passant.
Ça intéresse peut-être pas beaucoup Anne, qui a pour lecture préférée, à part le journal de Mitterrand, oui, le Figaro.
C'est vrai, mais je crois qu'il a été un peu son pygmalion politique, puisque il lui en parle, il l'invite à venir assister à des séances de l'Assemblée nationale, et dans son journal, sans entrer jamais dans le contenu politique, il évoque quand même un certain nombre de choses, de rencontres, en particulier en 71, le congrès d'Épinay.
Mais vous étiez en 64. Alors, c'est oui, à ce moment-là qu'il commence à fréquenter de plus près les socialistes. Lecture par Alexis Chevalier. On a choisi la voix d'Alexis Chevalier parce que c'est une voix jeune. Et Mitterrand est rajeuni par la présence d'Anne. Et il est obligé de fréquenter les vieux barbons du socialisme. Février 1964.
Maintenant, je suis dans une salle, comme toujours enfumée, proche de la rue des Martyrs. Les groupes d'inspiration socialiste y siègent en colloque pour la seconde fois, pour discuter de leur éventuel rassemblement. Vous ne pouvez pas imaginer le verbalisme ésotérique de cette espèce politique, profondément marquée par le souvenir des luttes ouvrières d'il y a 30 et 50 ans, et qui se reconnaît beaucoup plus dans une certaine terminologie marxiste que dans la doctrine du même nom. Si vous n'employez pas avec eux, et au moment voulu, des formules comme celle-ci, pôle de domination économique, dimension européenne, planification socialiste, nouveau centre de décision, mutation des pouvoirs, notion de contre-plan, appareil bureaucratique, la famille socialiste fronce le sourcil et vous considère soit avec méfiance, soit avec dédain. Quand j'étais étudiant, je me laissais impressionner par ce langage qui me paraissait hermétique et cuirassé comme une marine de guerre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je discerne le défaut de l'armure et je me désole de tant d'élan sincère vers la justice rongé par l'acide du sectarisme verbal. Si j'appartenais à un milieu politique de droite, j'aurais sans doute des réactions aussi rétractiles. Je l'ai connu autrefois et je n'étais qu'exaspéré par ses faux-semblants, par ses alibis. Tout le monde de ce côté-là s'affirmait social pour mieux dissimuler sous les mots la volonté forcenée de sauvegarder des privilèges. Est-ce à dire que tout est faux ? Non, assurément non. Simplement, cela montre que nous ne vivons pas en une époque d'affrontement catégorique, révolutionnaire. Le collectivisme a remporté sa première grande victoire en 1917 en Russie. Et puis, il a vieilli. Pas autant que le capitalisme, certes. Mais à force de se frotter l'un l'autre, ils ont usé leur énergie et s'accommodent de leur coexistence.
Eh bien, on peut dire qu'il n'est pas de la vieille maison, au sens qu'on donnait à la cité Malesherbes, le siège de la SFIO.
C'est sûr. Mitterrand n'a pas de culture socialiste. Ce n'est pas un socialiste de naissance. Mais alors, en 64, puisque ce texte date de 64, bon, il est assez ironique, n'est-ce pas, sur cette langue de bois, mais il faut bien remarquer que par la suite, il saura l'employer, lui aussi, sans trop y croire, mais enfin, elle peut servir à quelque chose, et notamment à la conquête du pouvoir.
Le PC n'est pas mieux servi qu'il sert des petits fours staliniens à ses réceptions. Les petits fours sont meilleurs chez Gisèle Halimi, mais c'est un tel prototype de l'intellectuel de gauche qu'il ne peut pas s'empêcher de la moquer. Avec la gauche, il partage surtout la détestation de l'argent et des jeux marchands.
Certainement. Ce qui fait qu'il est de gauche, néanmoins, je veux dire, malgré tout le mal qu'il dit des partis de gauche, sauf quand il sera évidemment le chef du Parti Socialiste, c'est que dès son adolescence, dès sa jeunesse, il a eu l'esprit, je dirais, d'humanité. c'est qu'il a été formé par un catholicisme social d'origine familiale et qu'il a toujours eu l'attention aux pauvres, aux démunis. C'est ce qui l'encouragera, qui contribuera à son adhésion au socialisme.
1971, vous évoquiez cette date, alors c'est le congrès fondateur à Épinay. Bon, en fait, en 1971, ce qui occupe la correspondance, c'est un écart grandissant entre Anne, qui a 28 ans, et Mitterrand, qui approche de la soixantaine.
Oui, en 1971, c'est la crise. Et c'est lui qui emploie ce mot-là. Et nous le comprenons mieux par la lettre que lui écrit sa bien-aimée le 12 octobre 1971, une lettre qui va le remplir de désarroi, puisqu'il y a dans cette lettre...
Mais
notamment,
elle dit qu'elle ne le lui a pas envoyé cette lettre.
Elle lui a lu ou dit le contenu. Et il y a dans cette phrase qui explique bien le type de problème, de malaise qui existe entre eux deux à ce moment-là, cette phrase « Si je te fais mal, c'est qu'on ne peut se détacher de quelqu'un qui vous tient les poignets qu'en mordant. »
C'est Anne qui dit ça.
Elle se sent à ce moment-là dans un état de soumission, elle veut s'en libérer. Elle exprime véritablement une souffrance, la souffrance d'une situation qui est exceptionnelle et qui, selon ses propres valeurs, n'oublions pas d'où elle vient, ce qu'elle est, c'est une souffrance qui doit un jour s'exprimer, éclater, et lui, il est, en s'en apercevant, complètement désespéré.
Mais coup de maître, parce qu'il est avec Anne comme avec la France, la conquête et la reconquête.
Ah, elle allait à Lourdes. Eh bien, moi, je vais aller une semaine dans un bidonville de Calcutta. Ça, vous ne le saviez pas, Michel Vinoc. Il va devenir...
Je ne le savais pas, parce qu'il n'en parle jamais.
Jamais. Il va devenir infirmier. Il tombe malade dès le premier jour. Il lui envoie lettre sur lettre depuis le bidonville de Calcutta, où il œuvre à côté du père Laborde. Je ne veux pas durer médiocrement. Ça, c'est sa maxime. Et après le temps de la désunion, qui avait suivi le temps de l'union des mains, qui faisait comme un cercle de paix, vient la route vers un nouveau monde, 74, la naissance de Mazarine.
Oui, je crois que Mitterrand a accepté cette paternité parce que il sentait bien que son amour en avait besoin. Kahn désirait profondément avoir un enfant. Et c'est en 1974, c'est-à-dire l'année où il se présente à l'élection présidentielle face à Giscard d'Estaing, que Mazarine va naître à la fin de cette année-là.
De la présidence des années de 81 à la fin du deuxième mandat, rien à attendre comme documentation dans cette correspondance. Ils vivent ensemble. Elle a enfin une maison, enfin un appartement de fonction payé par la République. Oui. Palais de l'Alma. Et les correspondances se font rares. Il le regrette d'ailleurs. On ne sait rien de l'influence qu'elle a eue sur lui à ce moment-là.
C'est vrai, là il y a un trou qui s'explique évidemment par leur proximité à ce moment-là. Il y a quand même un mot qui est terrible dans un petit texte du 12 novembre 1980 lorsqu'il a appris sa maladie. Aujourd'hui, passé aux assises, la peine de mort est rétablie. On lui avait donné 3 ans au mieux de survie.
En 1995, il a quitté l'Élysée, il sent rue Le Play, il est toujours là. Dernier voyage en Bretagne, parce que finalement, il va faire à la Bretagne une place décisive, Belle-Île, le 21 septembre 1995.
Une petite joie. Je n'avais plus de papier pour t'écrire, et je trouve celui-ci qui me vient de toi. Journée sans signe particulier. Le ciel reste pur. Je me suis promené ce matin et j'en reste fatigué. Baltique s'en donne à cœur joie. Elle court sans succès après les lapins qu'elle rencontre. Et il y en a beaucoup. Chaque fois je fredonne, serre, ouvre-moi. Mais les lapins se débrouillent très bien sans moi. J'ai eu Mazarine au téléphone ce matin. Réconfort. Toi, je continue de ne pas t'appeler. Ah, cet appareil qui claque à mon oreille, je ne le supporte pas. Et puis, me confier à ce papier me plaît. Je te l'ai écrit hier. Le mal des rayons m'a envahi et m'ôte mes réserves d'énergie. Mais il ne m'enlève rien. Ni sentiment, ni passion, ni douleur, ni espoir qui me lie à toi. Je n'arrive pas à comprendre comment un amour peut à ce point vaincre le temps. Nous sommes victimes aujourd'hui d'un acharnement à nous nuire. Je ne pourrais même pas mourir tranquille. J'y réfléchis beaucoup. Je veux que la paix nous soit rendue à toi et à moi. C'est actuellement ma seule pensée. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je comprends ce que tu ressens. Comprends-moi, toi, un peu mieux. Nous avons à nous défendre ensemble, à préserver ce lien si rare qui nous unit.
Ce lien si rare qui nous unit. Je ne veux pas entrer, vous non plus, Michel Vinocq, dans la tête d'Anne Pinjot, mais n'aurait-il pas été mieux préservé dans la paix du silence ? Mitterrand se plaignait des meutes de journalistes qui étaient là, en train de le guetter, de regarder au plus près dans sa vie privée.
Je n'éprouve pas cela en raison du contenu de ces textes. Nous ne sommes pas dans un monde de paparazzi, dans un monde people. Nous sommes là, dans le foyer rayonnant d'un amour. Sans doute, cela paraîtra peut-être ridicule, parce que d'un homme d'État, d'un président, on attend autre chose. Mais de son vivant, précisément, il a gardé cet amour secret. Et je crois que c'est intéressant, 20 ans après sa mort, de savoir qu'il existait cet amour-passion, qu'il était exprimé de manière si poétique. Et je pense que ces textes enrichissent notre connaissance de François Mitterrand. Nous y retrouvons son tempérament, son caractère, la ténacité, la patience aussi, la volonté de conquête. Tout cela peut être transposé, n'est-ce pas, du privé au public, ou inversement. Ces textes enrichissent la connaissance de sa personnalité, cette dimension sentimentale et poétique que nous ne connaissions pas.
Donc vous allez être obligé de modifier la nouvelle édition qui paraîtra comme les lettres et le journal à Anne, chez Gallimard. Votre Mitterrand, c'est dans la collection Folio. Je voudrais finir par une phrase qui est quand même un peu étonnante, étant donné qu'il y a une autre maison, rue de Bièvre, qu'il y a Daniel, qui n'est jamais cité, deux fils, Jean-Christophe, jamais cité, Gilbert, parfois cité comme chauffeur. Finalement, je suis quelqu'un de très fidèle.
D'ailleurs, c'est une marque de caractère qu'il a, notamment avec ses amis. On a beaucoup raconté sa fidélité à ses amis, même quand ceux-ci deviennent tout à fait décevants ou délinquants. En même temps, il ne divorce pas. Pourquoi ? Parce que Daniel, il l'aime bien, il aime beaucoup sa belle famille, et puis on divorce pas chez lui, ça ne se fait pas, ça. Donc il reste fidèle à tout le monde. Et en tout cas, dans ses lettres et ce journal, il y a une autre fidélité, évidemment, qui est la fidélité de l'homme passionné, amoureusement passionné.
Merci à vous, Michel Vinocq. Je ferai encore une ou deux recommandations. Vous avez publié aussi un journal politique. Qu'on n'y cherche pas des détails personnels sur votre vie privée. C'est chez Thierry Marchès, peut-être dans une prochaine édition. Et puis Alexis Chevalier, avec son compère Grégoire Roqueplot, qui nous accompagne souvent dans les restitutions du Vieux Colombier, est au Guichet Montparnasse pour quelques jours encore, le week-end à 22h, pour un spectacle qui s'appelle « Gig et Plot ». L'émission a été réalisée par Valérie Estaraille, et à la technique, c'était Pauline Laverdure.